Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons avec Michel Borges-Monori pour notre émission Bienvenue en Europe.
Alors, bonjour.
Donc, eh bien, nous allons parler des nouveautés européennes. Alors, la grande nouveauté, c'est le revoir des Britanniques, dont on va parler. Il y a quand même quelques conséquences pour nous et aussi pour eux. Et puis, aussi, voir les conséquences à plus long terme. C'est-à-dire que, en fait, ce départ va nous obliger à réviser un certain nombre de choses que l'on pensait acquises. Donc, finalement, eh bien, prenons le positif. Hein. On peut considérer le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Là, on va considérer le verre du côté plein. Alors, oui. L'après-Brexit.
Oui, alors, d'abord, les Britanniques donc, sont partis officiellement, selon les traités, ils sont partis le 31 décembre, janvier, je veux dire, 31 janvier de cette année, donc dès le lendemain 1er février, ils ne sont plus dans l'Union européenne.
Oui, alors ça redistribue les sièges, ça.
Alors ça redistribue les sièges, il y a, au Parlement européen par exemple, les sièges des parlementaires britanniques sont redistribués, une partie est distribuée aux États membres qui restent, la France bénéficie d'ores et déjà de 5 sièges supplémentaires, qui sont répartis en fonction des voix obtenues lors
aux dernières élections européennes.
Donc il n'y a pas de nouvelle élection, simplement il y a une redistribution sur base de ceux qui étaient
sur la liste. On avait déjà parlé, je crois.
Alors ceci, ce n'est pas du neuf, mais c'est simplement pour rappel. Il y a une partie d'ailleurs des sièges qui n'est pas redistribuée et qui reste en attente. Donc maintenant, le Parlement européen sera, au lieu de 756 membres, de 705 membres. Et une partie, donc, est mise en réserve
pour
les pays à venir ou éventuellement un nouveau mode d'élection transnationale. Donc ça, on verra. Donc,
je pense que pour les citoyens, moi, j'aimerais bien qu'on voit ce qui se passe pour les citoyens anglais en France, en Allemagne, en Italie. Enfin bon, parce qu'ils perdent, j'ose pas dire leur double nationalité. Ceux qui étaient maires, par exemple, en Dordogne ou bien en Allemagne... Bon, d'un seul coup, ou bien ils prennent la nationalité allemande s'ils sont en Allemagne, la nationalité française s'ils sont en France. Autrement, ils ne peuvent plus être maires.
Tout à fait, mais ils ne peuvent plus voter non plus. Ils ne peuvent plus aux élections municipales, même s'ils ne sont pas maires. Donc on s'aperçoit avec cette séparation
qu'il y a
des conséquences pour chacun. Pour les Britanniques qui vivent sur le sol du continent européen, au sein de l'Union européenne, et également les Européens qui vivent sur le sol britannique. Donc il y a des conséquences des deux côtés, et là, on ne se rend pas compte, après toutes ces années passées ensemble, des conséquences incroyables. Lorsqu'on passe les frontières sans problème, on n'a pas besoin de présenter des passeports. En fait, on a vécu jusqu'à présent comme si on était une seule entité, un seul et même pays.
Quoique les Anglais, c'est la seule frontière.
C'est ça. Parce que là, il y a même déjà une frontière physique avec la Manche. Même si on retire le fait qu'ils n'ont jamais fait partie de Schengen et qu'ils ne partageaient pas la monnaie commune qui est l'euro, il y avait quand même des facilités dont on se rendra compte maintenant qu'elles n'existent plus.
Alors quand même, l'Eurostar fonctionne toujours. Et
bien
puis,
sûr.
Quand on va prendre l'Eurostar à la gare du Nord, ben, il y a toujours le contrôle qu'il y avait avant et il est resté. Mais il n'est pas plus méchant, si j'ose dire.
Ce qu'il faut simplement dire, et ça a été rappelé évidemment dans les médias, c'est que jusqu'au 31 décembre
2020.
De notre année, 2020,
oui, 2020
donc
oui.
À la fin de notre année, il n'y a rien qui change. Parce que c'est une période transitoire. Ils sont partis, ils ne font plus partie des organes institutionnels, ils ne décident plus ensemble avec nous, ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais tout fonctionne comme avant, c'est-à-dire que
là,
jusqu'au 31 décembre,
les choses.
Parce qu'il faut négocier un partenariat pour la suite. Et notamment, c'est d'abord au plan des échanges commerciaux, parce que c'est ça qui...
Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bon, on va essayer de penser que le nerf de la guerre, c'est autre chose.
Enfin, c'est aussi autre chose, bien entendu. Ça, nous allons évidemment y revenir. Mais il est clair que les échanges entre le Royaume-Uni et le continent correspondent pour eux à plus de la moitié de leurs échanges. Donc lorsqu'ils disent qu'on va sortir comme cela et sans accord, pour eux, ce serait une catastrophe encore plus importante que pour nous. Maintenant, ceci étant, il faut voir la part des choses. Mais quand même, du jour au lendemain, s'il n'y avait pas un accord à la fin de cette année, ça veut dire que le Royaume-Uni serait un État tiers. Et donc, tout ce qui se fait au niveau des droits de douane, des échanges de marchandises, ça crée des problèmes extraordinaires. Alors, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé à différentes reprises.
C'est vrai que, par exemple, Guernesey a dit tout de suite, « Bon, alors maintenant, je vous interdis mes eaux territoriales. Le pêcheur breton est comme Guernesey en face des... »
Alors là, il n'y avait pas de période transitoire c'était un accord bilatéral entre l'Union et enfin, les pays qui étaient concernés par la pêche et ces zones-là. Donc ça n'avait pas un lien direct avec les accords au sein de l'Union européenne de manière générale. C'était à part. De même qu'il y a à part les accords entre l'entrée des migrants au Royaume-Uni, entre la France...
Oui, ça, c'est vrai que c'est
dommage.
Donc,
il y a toute une série de choses qui seraient...
Calais, là.
Ah ben oui, tout à fait. Mais ce qui va être surtout important, c'est que est-ce qu'en quelques mois, un accord est possible sur le plan commercial, sur le plan des échanges des personnes, sur tous les plans. Il y a plusieurs centaines d'accords techniques qui lient le Royaume-Uni à l'Union européenne, et tout d'un coup, tout ceci est mis à plat. Donc, il va y avoir des négociations très difficiles. On a déjà vu ce que ça a donné pendant les 3 ans jusqu'à ces derniers temps. Et comment est-ce qu'on a un si laps de temps si court, on peut se mettre d'accord. Alors, M. Johnson, du côté britannique, dit « Je ne veux pas une prolongation, parce qu'il y a une prolongation de la négociation qui est possible pendant encore 2 ans. Donc, ça ferait 2022, décembre 2022. » Mais il dit non, pas question, à la fin de l'année, c'est fini.
Ben c'est lui qui nous a amené à prolonger l'affaire politique, mais je crois que maintenant, c'est son intérêt et notre intérêt aussi à ne pas être aussi titilleurs. Mais c'est vrai que quand on voit que les députés peuvent amener des amendements sur tout, enfin, je veux dire que là, ça dépend aussi de l'attitude des uns et des autres. Et là, on peut imaginer quand même de mettre un coup de pied dans la fourmilière de la paperasserie et des règlements pour être un peu plus clair et un peu plus... Quelquefois, je me dis, bon, il y a des choses, ça me paraît évident qu'il faut que ce soit transparent, mais j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois, il y a beaucoup de place donnée aux négociations, à la paperasserie. Et pendant ce temps-là, quand même, le temps tourne, la vie avance et les entreprises doivent fonctionner. Donc là, je crois qu'il y a quand même quelque chose à revoir. Ce sera peut-être l'occasion, non ?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais quand on parle de paperasserie, j'aimerais rappeler qu'au niveau européen, la paperasserie... Ce n'est pas...
Il n'y en a pas autant qu'en France.
Il n'y en a d'abord pas autant qu'en France. Mais l'origine de cette paperasserie n'est pas là où on le croit, généralement. C'est que lorsqu'il y a une situation à régler, il y a une proposition qui est mise sur la table par la Commission européenne qui représente l'intérêt général. Ceci est discuté par tous les États membres et ensuite doit avoir l'aval du Parlement européen et aussi des États au niveau du Conseil Europe, du Conseil. Mais qui est-ce qui crée cette paperasserie ? C'est que chaque État, au niveau de la négociation, sur base de la proposition présentée par la Commission européenne, eh bien, la France dit « Mais moi, je voudrais, là, attention, si, là, il faut faire, là, je veux si. Les Italiens vont demander autre chose, et ainsi de suite. » Donc, il y a une espèce de compromis, on en rajoute et on en rajoute pour que chacun soit content.
Et après, ça fait une usine à gaz.
Et alors, s'agissant des Britanniques, je l'ai déjà dit à cette antenne, mais comme j'ai travaillé à Bruxelles au sein de la Commission européenne, je peux témoigner du fait que les Britanniques, autant ils sont très difficiles au niveau des négociations,
mais une fois que c'est acquis, ils appliquent.
Je n'oublierai jamais qu'à l'époque de Jacques Delors, où je me trouvais à Bruxelles, il y a eu un nouveau secrétaire général de la Commission européenne, qui est donc le poste numéro un clé, parce que c'est l'organe qui organise, qui fait marcher la Commission européenne. Eh bien, cette personne était un Britannique qui a été nommé, proposé par les Britanniques, mais accepté par les États membres, mais qui a été présenté, proposé, littéralement exigé, puis ça a été accepté par les autres États membres, par les Britanniques. C'était Madame Thatcher qui a proposé un certain Monsieur David Williamson, qui est devenu le secrétaire général de la Commission européenne.
Et on s'en est félicité.
On lui avait demandé, c'est que toutes ces réunions devaient être tenues en français, en langue française, ce qu'il a fait. Et je dois dire que moi, j'étais très impressionné. Il est devenu un de mes amis. Malheureusement, il est décédé maintenant. Mais c'est pour dire que les Britanniques, ils peuvent être... Ils veulent, bien souvent, on le verra encore, le beurre et l'argent du beurre. Mais quand il y a une chose qui est décidée, paf, on l'applique. Et en ce qui concerne les décisions, justement, des propositions législatives au plan européen, les plus difficiles au niveau de l'application... Ce ne sont pas les Britanniques.
Ce sont les Français.
Ce sont normalement les Français. On dit oui, oui, oui. Et puis quand on veut regarder l'application, la mise en application des directives européennes, eh bien on est généralement les derniers de la classe. Donc je voulais juste refermer la parenthèse.
J'ai un très bon exemple là-dessus. Voilà. C'était l'obsolescence programmée. Et il y avait des dispositions en Europe qui étaient prises contre l'obsolescence programmée. Et j'ai, à mon grand étonnement, j'ai vu en Angleterre que pour des produits, bon, eh bien là, la garantie était... 2 ans, et puis facilement. Mais ça, c'est maintenant, on présente comme en France comme étant une victoire que la garantie soit de 2 ans. Or, en Angleterre, la garantie était de 2 ans, mais et même davantage. C'est-à-dire, c'était, si on rajoutait quand on a à l'achat quelques pounds ou quelques... Bref, la garantie était beaucoup plus longue. Et en France, je me suis posé la question, pourquoi la garantie... a-t-elle été si longue à arriver ? Pourquoi les dispositions réglementaires qui étaient prévues ont été si longues à arriver ? Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est choquant.
Il faut simplement dire, pour rappeler en un mot, que les directives européennes, donc c'est des lois, si l'on veut, c'est appliqué dans l'ensemble des pays qui font partie de l'Union européenne, mais son application... relève des États membres.
Voilà, et c'est là
donc,
que...
C'est là où chacun intervient pour essayer de mettre son bout de gras.
D'arranger ses affaires. Voilà. Oui, alors, entre autres, cette directive qui était dans l'intérêt des citoyens alors, et qui a été si longue
à prendre
en France. En revanche,
qui s'applique les lois qui s'appliquent directement, sans passer par cette transposition nationale, ce sont des décisions ou directement des décisions. Et là, c'est autre chose.
Bon, alors, c'est vrai aussi que... Ce Brexit, le fait qu'il nous dise au revoir, a amené aussi peut-être une réflexion à se faire. On a l'impression que l'Europe, c'est fait, c'est un fait, bon voilà. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ça peut se défaire. Donc, il y a là peut-être l'occasion de réviser les choses. Et alors, je pensais notamment à l'Europe sociale. Et j'ai observé que dans les propositions de la nouvelle Commission, l'Europe sociale est sur la table.
Oui. Alors, il y a la nouvelle Commission a présenté son programme en début d'année, exactement le 29 janvier, il n'y a pas très longtemps. Donc, elle a fait une présentation de l'ensemble de son programme de travail. Ceci faisait partie également des grands objectifs que Mme von der Leyen avait proposé, notamment devant le Parlement européen, lorsqu'elle était candidate au poste de présidente. Donc, l'Europe sociale fait partie de ce programme. Alors, il y a toute une série de choses qui sont prévues dans ce programme de travail. Il y a un programme annuel et un programme pluriannuel. Alors, c'est une chose que je connaissais très bien autrefois parce que ça faisait partie de mes charges de précisément organiser pour la Commission la mise en place du programme. Et c'est une coordination entre tous les services, toutes les antennes que l'on peut avoir partout pour voir dans chacun des pays et chaque projet également que l'on a sur la table, comment est-ce qu'on va pouvoir programmer cela au niveau d'un agenda, est-ce que ceci c'est possible, c'est pas possible, etc. Donc c'est un travail très difficile, mais il y a des priorités politiques qui sont appliquées et c'est celle-là qu'on essaie de mettre en place. Alors là, dans le nouveau programme de Mme von der Leyen, elle l'a présenté le 29 janvier, il y a toute une série de choses qui en font partie, dont aussi l'Europe sociale que vous venez de souligner. Cette Europe sociale, il faut le dire, qu'elle ne fait que partiellement partie
Des dispositions européennes, européennes, ça dépend de chacun.
Légales. Et donc la plus grande partie est du ressort des États membres. Et c'est là où le bas blesse, en quelque sorte.
Oui, parce qu'il y a toujours des
alors, ce que l'on va essayer
pas.
D'obtenir, ce que la nouvelle Commission voudrait faire, c'est que, précisément, on aille plus en avant vers une Europe sociale, disons, pour qu'il y ait plus de justice et d'harmonie, notamment en ce qui concerne le droit du travail, mais il y a d'autres, évidemment, domaines qui sont concernés. Ceci faisait partie déjà, j'aimerais le souligner, des propositions de Jacques Delors à l'époque où il était président de la Commission européenne. Et lorsque l'union monétaire a été mise en place, donc l'euro, il avait bien indiqué qu'il fallait qu'à côté, il y ait l'économique et le social. Et ceci n'a pas été tellement entendu parce que, précisément, ce sont les États membres qui ont freiné et empêché cela. Donc, on va voir maintenant si la nouvelle commission, qui a le vent en poupe comme tout nouveau gouvernement national, il y a des propositions qui sont mises sur la table, on essaie d'aller de l'avant. Et puis, le Parlement européen... Là, il devrait être derrière, je pense, en ce qui concerne un grand nombre des projets qui sont sur la table. Mais c'est une affaire à suivre. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est précisément un vent nouveau, mais que ce programme est quand même très, très ambitieux. Et il est ambitieux avec des répercussions, comme il se doit, au plan financier. Et sachant que le budget européen est très, très, très limité... Il est ridiculement petit par rapport à des grands ensembles comme sont les États-Unis, le budget fédéral américain, pour ne prendre que cet exemple. Mais donc avec à peu près 1% du PIB de l'ensemble de l'Union européenne, c'est ridicule. Or, la Commission nouvelle, mise en place, a mis sur la table toute une série de projets, dont certains, par exemple le plan vert, dont on a déjà évoqué, son contenu lors d'une précédente émission, ce plan vert, ce Green Pact, est véritablement très très ambitieux pour essayer d'opérer une transition, notamment du côté polonais, où là, les mines de charbon sont à la base de l'électricité nationale et évidemment ont des répercussions négatives sur le plan de l'air que nous respirons à travers le CO2 qui est émis. Alors, bon, alors tout ceci fait qu'il y a donc des ambitions très importantes sur ce plan-là. Et au niveau budgétaire, malgré les difficultés, eh bien, Mme von der Leyen et la nouvelle commission a essayé de trouver moyen de mettre sur la table des... finances supplémentaires extra-communautaires, en quelque sorte, en essayant de faire un montage, comme d'ailleurs M. Juncker l'avait fait à un moment donné, pour essayer de mettre sur la table, faciliter cette transition, mais avec des fonds à la fois publics et privés.
Alors, donc, ça, on voit donc un certain nombre de choses doivent se faire. Mais, par exemple, de façon très concrète... Le projet de fusion entre Alstom et Siemens a été rejeté par la Commission en disant « Eh bien, ce serait un trop grand groupe qui aurait une situation de monopole. » Or, maintenant, cette situation de monopole en Europe, il faudrait peut-être revoir les choses parce que nous sommes en face de géants indiens, chinois, américains, et on voit que si on oblige les entreprises européennes à se faire concurrence. Siemens va faire concurrence à Alstom. C'est quand même dommage, parce que pendant ce temps-là, les Chinois peuvent tailler des croupières. Et puis, pour le numérique, pour lequel il n'y avait pas de disposition, eh bien, on voit qu'on est dans le désordre. Heureusement, il y a eu une commissaire très, très exigeante, et on ne peut espérer que ce sera la même chose, pour faire en sorte que l'Europe n'y perde pas trop, et notamment qu'on taxe les opérateurs étrangers. Mais en attendant, ce sont des opérateurs étrangers.
Oui.
Donc là, il y a, soit dans le numérique ou que ce soit dans l'industrie, là, il y a des choses à toiletter.
Il y a deux éléments, comme vous l'avez souligné, qui posent problème. C'est effectivement la concurrence, entre guillemets, déloyale entre le monde extérieur et l'Union européenne. Et puis, il y a au sein même... de l'Union européenne, des dispositions qui font, au titre de la politique de concurrence, qu'on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut pour être également un partenaire qui s'impose au niveau extérieur. Et ceci, ce sont dans les traités. Donc il faut renégocier cela.
Il faut toilettage, là.
Et ce n'est pas du tout évident. Alors il y a beaucoup de choses, effectivement, à modifier. D'ailleurs, dans le nouveau programme de Mme von der Leyen, il y a une simplification des dispositions à revoir. Il y a un souhait au niveau des États à aller de l'avant pour réviser cette politique de concurrence. Il y a aussi le souci de se centrer essentiellement sur le plus important à faire et non pas à rentrer et à chipoter sur des détails au niveau européen. Tout ceci est sur la table. Donc on devrait aller vers plus de simplification pour se centrer sur les vrais problèmes les plus importants. Mais c'est plus facile à dire et à écrire et à présenter dans un programme
de dire,
qu'à appliquer. Parce
qu'une
fois qu'on se retrouve autour d'une table, les États, comme il se doit, disent « mais moi, je ne veux pas perdre ci, moi, je veux ici, et ça, et ça ». Donc, c'est toujours très, très difficile à mettre en application. Mais espérons que, précisément, par rapport à ce qui se passe avec ce Brexit, maintenant que la Grande-Bretagne nous quitte, s'il n'y a pas un renforcement interne de l'Union européenne sur ses fondamentaux, pour aller de l'avant, l'Union fait la force, c'est bien connu, eh bien on se risque d'être perdant au plan extérieur si justement on ne se sert pas de la leçon qui nous est donnée ainsi. Et là aussi, c'était un des points que vous aviez soulevé, c'est dire mais qu'est-ce qui fait d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a eu un pays comme la Grande-Bretagne aussi important au niveau de la puissance économique au sein de l'Union européenne qui a décidé un beau jour de dire ah ben maintenant ça suffit, on s'en va. Donc il y a des répercussions au plan humain dont il faut analyser, dont on a parlé un petit peu. Et là, c'est vrai qu'on doit se poser des questions. Mais évidemment, en fond, on a évoqué souvent ce sujet ici, à cette radio, mais c'est que c'est toujours, comme dit cette émission de télévision en France, bienvenue en Europe, c'est pas bienvenue en Europe, ça c'est notre émission, mais c'est la faute à l'Europe, pardon.
Oui, ce que j'allais dire, nous on est plutôt favorable.
Non, il y a une émission, on en a peut-être évoqué, mais c'est les médias, généralement, qui disent toujours, quand quelque chose ne va pas, c'est la faute à l'Europe. Et alors, il se trouve qu'il y a une émission intéressante à la télévision française, mais qui passe toujours à des heures où personne ne peut l'écouter, et qui s'est intitulée de manière humoristique, c'est la faute à l'Europe. Mais donc, il faut déjà surmonter ce peur-là. Pourquoi ? Parce qu'au plan national, c'est tellement facile de mettre tout ce qui ne va pas sur le dos de quelqu'un d'autre. Et on le voit à chaque, notamment, élection et système.
Système de bouc émissaire, ça s'appelle.
Ceci étant, on ne fait pas assez pour rapprocher l'Europe de ses citoyens. Et ceci fait partie d'un des grands axes du programme de Mme von der Leyen pour précisément aller de l'avant. Et elle a présenté au début de cette année aussi une idée qui avait été proposée par la France d'une grande conférence sur l'avenir de l'Europe pour précisément mettre en place des outils qui permettront de rapprocher concrètement, pas uniquement sur le papier ou comme cela en parole, l'Europe de ses citoyens. Comment on va faire ? Donc il y a une grande conférence qui va durer 2 ans, qui sera lancée officiellement lors de la fête de l'Europe le 8 mai prochain, 70e anniversaire de la déclaration de Jean Monnet et Schuman, enfin Schuman et Jean Monnet. Et ceci sera évidemment symbolique, mais c'est très important parce qu'il y a des comités de citoyens qui vont être mis en place, on va questionner, enfin, toute une série de choses, on pourra y revenir, mais c'est un objectif vraiment important qu'il faut souligner. Et c'est d'autant plus nécessaire précisément du fait des leçons qu'on doit tirer du Brexit.
Alors, justement, on évoque la manière de faire. Et alors, moi, j'étais dans l'éducation nationale. Et au niveau de l'éducation, c'est vrai que quand il a fallu harmoniser des affaires en éducation, et notamment pour la reconnaissance respective de nos diplômes, parce que, par exemple, il y a 50 ans, un médecin qui voulait s'installer en France devait refaire toutes ses études de médecine en France. Ça n'est plus pareil. Alors, quand on a essayé d'harmoniser pour les médecins, mais aussi pour beaucoup d'autres diplômes, on a regardé les programmes de chacun. Et alors, on s'est rendu compte que si on additionnait ce qui est demandé à un médecin en France, puis en Pologne, puis en Allemagne, etc., il fallait non pas 7 ans d'études, mais 20 ans d'études. Alors, à un moment donné, on s'est dit, bon, alors arrêtons. Et on s'est posé la question de façon un peu différente. Est-ce que les malades meurent davantage en Espagne, au Portugal, en France, en Angleterre? Et on s'est dit, ben non, finalement, les taux de mortalité en Europe se ressemblent, avec quelques nuances près. Donc, finalement, on a décidé de reconnaître les diplômes les uns des autres, c'est-à-dire se faire confiance. Et je crois que, moi je me dis, mais pourquoi ce qui s'est fait là, dans le domaine de l'éducation? Alors c'est vrai que l'éducation, c'était plus ou moins des choses qui concernaient les États. Mais en tout cas, puisque là on a su dire la reconnaissance réciproque, moi je me dis, pourquoi ne pas aussi faire confiance aux gens plutôt que de triturer les ménages et triturer aussi les dispositions et élever les barrières. Alors, par contre, justement, puisque j'ai évoqué l'éducation, je voudrais que nous quittions cette émission sur une note positive, avec notamment ces questions de qui concernent l'éducation et la culture, auxquelles vous étiez attaché, vous m'avez dit au début de l'émission quand on l'a préparé.
Oui, parce que Erasmus est quelque chose, là, quand on dit rapprocher l'Europe de ses citoyens, on comprend tout de suite ceci, et il y a eu un film
là-dessus,
les jeunes comprennent, etc.
Aucun problème.
Donc il y a une soif de découvrir les autres et que l'on puisse être bien conscient de l'ensemble dans lequel nous vivons. Et tout ce qui peut aller en faveur d'une Europe de la jeunesse, où les jeunes peuvent circuler un maximum au sein de notre continent, au sein de l'Union européenne, eh bien c'est forcément un plus. Alors je voudrais simplement évoquer deux dispositifs qui existent. Un qui a été mis en place entre l'OFAGE et la chaîne Arte. Donc l'OFAGE, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et Arte, c'est la chaîne franco-allemande que l'on connaît, dont le siège est à Strasbourg, entre parenthèses. Alors, ce qui est proposé par entre l'OFAGE et Arte, c'est de faire une plateforme qui est dédiée à la fois aux enseignants et aux élèves qui vont de la 6e à la terminale. Et donc, le sujet, depuis 1963, l'OFAGE a quand même permis à plus de 9 millions de jeunes Français et Allemands de participer à environ 360 000 programmes d'échange. Ça aussi, c'est les aspects
donc
positifs.
Ça se poursuit. Le train pour l'Europe.
Il y a 9 000 échanges chaque année de ce point de vue-là. Et donc, il y a toute une série de choses qui sont mises en place directement avec la chaîne Arte.
Donc, chers grands-parents, vous dites à vos petits-enfants de regarder ça de près.
Tout à fait. Alors, il y a une plateforme également à laquelle on peut y accéder, mais ça, bon, voilà. Alors, il y a parallèlement un autre dispositif qui s'appelle Discover EU, en bon français. Il y a 20 000 jeunes qui vont partir cette année. Ça a été lancé en 2018, 2019 et maintenant 2020. Un programme qui concerne donc 20 000 jeunes qui sont sélectionnés pour pouvoir voyager par train en principe, ou par bus, qui peuvent circuler dans tous les pays pendant 30 jours, entre le 1er avril et le 31 octobre. Et ceci est vraiment un dispositif vraiment original et qui attire de plus en plus de candidatures. Et donc, il y a un portail, sur le portail européen de la jeunesse, on peut aller voir de quoi il s'agit. C'est un programme qui a été lancé sur proposition du Parlement européen en 2018. Donc là aussi, un sujet à suivre, et il y a déjà 75 000 jeunes qui ont pu participer à ce programme. On espère que ceci pourra être étendu à l'avenir encore davantage.
Eh bien, chers auditeurs, le temps s'écoule, donc l'occasion de vous dire au mois prochain pour cette émission Bienvenue en Europe, et pour les informations concernant la jeunesse, vous pouvez aller donc sur les portails européens dont on parle. Bonne semaine à tous, au revoir.